acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
Cube Radio.
Aujourd'hui, pour notre balado, je vous propose une formule un peu différente avec un invité qui est avec moi en studio. Cet invité, c'est un designer automobile. Il travaille justement en design automobile ici à Montréal. Et il a travaillé sur plusieurs projets vraiment exceptionnels, comprenant par exemple celui qui a fait le design du T-Rex de Campagna. Il a aussi fait le design des Corvette Callaway, des voitures hyper performantes, très aérodynamiques. Donc, on va parler un peu de lui, évidemment, de sa carrière, de ses réalisations. Et aussi, on va parler de design automobile en général avec mon invité aujourd'hui, qui est Paul Deutschmann. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile.
Au volant avec Gabriel Gélina.
Alors, Paul Deutschmann, bienvenue à mon balado. C'est très gentil à toi. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis très, très longtemps maintenant.
Oui.
Exact. Et puis, j'ai pensé parce que, pour moi, le design automobile, ça a toujours été une de mes passions. Pas juste la façon dont les voitures se conduisent, mais le look qu'elles ont et tout. Et j'ai pensé, vu que t'es à Montréal, vu qu'on se connaît depuis longtemps, que ce serait une bonne occasion de parler un peu de design et aussi de ta carrière parce que, de réussir à vivre en tant que designer automobile basé à Montréal, c'est quand même pas banal. Et je sais qu'on va parler beaucoup de tes réalisations et puis de tes projets, ces choses-là, mais dans un premier temps, j'aimerais ça savoir d'où est venue cette idée, de cette notion, en fait, peut-être, je sais pas, quand tu étais jeune, de dire « un jour, je vais être designer automobile ».
Ben, bonne question. Premièrement, ben, merci pour l'invitation aujourd'hui. Les premières choses que je viens d'avoir qui m'a allumé quelque chose, un intérêt, c'est peut-être dans école primaire, fin d'école primaire, puis on avait une professeure qui très jolie, puis un jour elle est arrivée à l'école en conduisant un Mustang rouge fastback.
Wow.
Puis tu sais, on a dit, tu sais, tous les garçons dans la classe étaient comme « wow », tu sais, que c'est comme... Alors, c'était, disons, à partir de là, c'est... Je pense que j'ai posé la question, c'est quoi qui fait réagir le monde? Même mon père, qui était, tu sais, pas un homme super passionné, mais quand il achetait une nouvelle voiture, il dit « ah, c'est beau », puis... Je voulais savoir, découvrir c'est quoi qui causait cette réaction-là. Okay. Et j'ai pas arrêté de poser la question encore.
Donc, c'est véritablement en voyant cette Mustang rouge qui t'a frappé, que tu as commencé à concevoir pourquoi est-ce que cette voiture-là était plus belle que les autres, pourquoi elle t'attirait plus que les autres, et c'est de là que c'est parti.
Oui, oui, c'est un de mes premiers souvenirs. Puis après ça, j'ai commencé à acheter des petites maquettes en plastique, sauf que j'ai pas fini un qui était pas modifié avec la carrosserie. Originale, puis
déjà, tu apportais ta touche personnelle au design
de vie. Puis c'est devenu comme une obsession depuis un jeune âge, puis alors j'ai dit, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille dans ce domaine-là, parce que c'est un peu comme si j'avais pas de choix.
Une fois que tu as eu cette passion-là, une fois que tu as décidé de faire ce métier-là, comment es-tu parvenu? Parce qu'il faut faire des études spécialisées. C'est pas n'importe qui peut s'improviser designer automobile. Faut suivre une certaine formation.
Absolument.
Quelles sont les étapes, justement, de la formation que tu as suivie?
J'ai fait mon cégep ici à Montréal, puis À la fin, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui existe dans le monde? Puis n'oublie pas, ça, c'est avant le qu'on avait Google. Puis
ouais, avant Internet.
Puis j'allais dans la bibliothèque, puis j'ai recherché un livre sur design automobile, puis les collèges. Puis j'ai trouvé un en Angleterre qui s'appelle l'Université de Hertfordshire. Puis j'ai dit, dans le temps, c'était Hatfield Polytechnique. Puis qu'est-ce qui m'attirait, c'est que c'était un cours d'ingénierie, mais chaque semaine, ils consacraient du temps à faire du styling, des croquis, des rendus, des maquettes en argile. Puis, alors, je trouvais que c'était un mélange qui était assez unique, puis ça me fascinait. Je suis allé là comme ça, puis... 4 ans plus tard, j'avais mon bac dans... C'est un bac d'ingénierie, mais...
Donc, tu as décidé de te rendre en Europe, en Angleterre, et d'étudier à l'université anglaise, justement, pour apprendre le design. Mais pas juste le design, mais aussi l'ingénierie.
Oui, parce que je trouvais le côté technique, c'est très, très important.
Oui, absolument.
Dans le design, c'est très important, oui.
Parce que souvent, en tout cas, c'est ce qu'on remarque souvent chez les constructeurs automobiles aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une espèce de rapport de force. Souvent entre les designers et les ingénieurs. Les ingénieurs veulent certains paramètres, les designers veulent autre chose. Puis c'est difficile des fois d'arriver à aimer
tout ça. Oui, c'est classique et c'est une de mes... les choses que j'aime le moins, c'est qu'on assume qu'il va y avoir un conflit entre les ingénieurs puis les designers puis les stylistes. Les ingénieurs regardent les stylistes comme des artistes puis et vice-versa. Mais les meilleurs designs, puis historiquement, comme le Mini, c'était conçu par Issy Gonis, c'est un ingénieur, les Citroën aussi. Alors, il y a aucune raison. Puis je pense que les entreprises aujourd'hui qui acceptent que les deux vont travailler ensemble pour créer un meilleur produit sont les designs les plus réussis.
Donc, tu es en Angleterre, tu sors de l'université, et en sortant de l'université, tu vas travailler chez Jaguar et Land Rover.
Oui, mon premier emploi, c'était chez Rover. Puis c'était drôle, une petite drôle d'anecdote, c'est que, tu sais, en voyant que mon université, c'était comme ingénierie. Alors, c'était pas comme complètement naturel d'un ingénieur d'entrer dans le département de design.
Exact.
J'ai harcelé un peu mes supérieurs, puis j'ai pas eu de chance, mais finalement il y avait un concours par Hot Car, la revue Hot Car en Angleterre.
Ouais, d'accord.
Il y avait 550 gens qui ont rentré,
participé,
et puis j'ai gagné le premier prix.
OK.
Alors là, avec le design sur la page couverture, je suis rentré voir mon supérieur.
Avec ton design sur la page, la première page d'un magazine britannique sur les voitures.
Et 2 semaines plus tard, bureau de design de chez Rover. C'était comme si j'étais dans une temple, c'était... Incroyable d'être entouré par des designers, puis des modèles d'argile, puis des rendus sur les murs. C'était vraiment merveilleux.
Donc là, vraiment, tu étais chez un constructeur au département de design. Tu as compris finalement que tu avais trouvé ta niche, finalement.
Oui, dans les 4 ans que j'étais là-bas, oui, c'est ça.
Et après ça, t'es revenu ici à Montréal et t'as travaillé sur un projet pour un taxi spécial pour la ville de New York. Ça devait être un tout autre défi finalement.
Oui, je suis revenu à Montréal pour qu'est-ce que je pensais, c'était une vacance. Puis avant de retourner travailler chez Rover, puis je vais appeler, c'était Guillaume Smith Marquard, GSM. Puis j'ai dit, je vais les appeler, voir qu'est-ce qui se passe à Montréal en termes de design. Il dit, on travaille sur un taxi pour New York. Quand est-ce que tu peux commencer? la vacance a changé. Puis, je suis resté à Montréal depuis ce temps-là.
Et par la suite, il y a eu une voiture qui a vraiment été peut-être marquante puis qui a peut-être aussi été le point de départ, finalement, de ta carrière solo ici à Montréal, c'est-à-dire avec ta propre entreprise. C'est la fameuse Spexter. Parle-nous un peu de cette voiture, parce que cette voiture-là, elle s'est retrouvée sur la page couverture de Motor Trend. Quand même, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui, c'était, disons, si on peut appeler ça le breakthrough.
Ouais, c'est ça.
Parce que, tu sais, de travailler dans une petite atelier à NDG, c'est des fois c'est difficile de se démarquer. C'est le docteur Clyde Kwok qui est un grand amateur de Porsche,
oui,
collectionneur, puis il était tanné d'attendre que Porsche sorte un speedster comme un nouveau speedster futuriste. Puis quand il a vu une couple d'autres projets que j'ai travaillé sur, il a donné une commission à Specs Design, mon entreprise, à faire cette Porsche-là de l'avenir. Pendant qu'on travaillait là-dessus, là, tu sais, on a eu beaucoup de pushback comme penser que vous pouvez améliorer quelque chose que Porsche a fait. Mais finalement, quand c'est paru sur la page couverture de Motor Trend, Sports Car Illustrated, c'est là où c'était... et puis c'était marqué sur la page couverture « Is this Porsche's new speedster? »
Ah ouais, est-ce que c'est la prochaine speedster de Porsche?
Oui, c'est ça.
Alors que c'était un projet que vous avez fait dans vos ateliers ici à Montréal.
Oui, oui.
Une voiture unique. Et
oui,
puis,
oui.
Mais déjà, on voyait tout de suite au niveau du style, en tout cas pour les gens de Motor Trend puis de Sports Car Illustrated, ils ont été absolument séduits par cette voiture-là parce qu'ils ont décidé de la mettre en page couverture.
Oui.
Ils donnent pas, ils font pas, ils accordent pas ça à n'importe qui.
Alors,
plus forte raison pour une voiture unique construite à Montréal, c'est vraiment exceptionnel.
Oui, c'est et puis un des les plus beaux moments de ma vie, c'était d'aller dans un magasin de revues.
Ouais, de magazine, ouais.
De magazine, puis de voir le Motor Trend, là, c'est des yes. Puis, finalement, c'est à cause de ça que j'ai rencontré Reeves Callaway.
Ben justement, parlons-en de Callaway, parce que Reeves Callaway, c'est tout un bonhomme. Évidemment, bon, pour ceux qui connaissent beaucoup l'automobile, ils savent qu'il modifie des Corvettes pour les rendre plus performantes. Il travaille beaucoup aussi sur le design, sur le style. Et donc, est-ce que c'est parce qu'il a vu la Specster, justement, sur la page couverture de Motor Trend qu'il a décidé de te contacter?
Pas exactement,
non.
Mais presque.
Presque, OK. Raconte.
Dans la revue Auto Week, ils ont mis deux paragraphes avec une petite photo du Specster avec mon numéro de téléphone. Puis Reeves Callaway m'a appelé directement. Puis, il dit, ah, j'ai vu votre Specster. J'ai dit, oui, mais Monsieur Callaway, avez-vous vu le Motor Trend de ce mois-ci? Il dit non. Je dis, go take a look. Techniquement, là, sa première question, c'est, Paul, peux-tu dessiner une carrosserie pour une voiture de 250 000 à l'heure?
Wow.
C'est 400 km à l'heure.
Wow.
J'avais aucune idée, mais ma réponse tout de suite, c'était bien sûr. Et puis, non, ben regarde, le projet, c'était bien entouré avec des ingénieurs, des spécialistes de aérodynamique, parce qu'à ces vitesses-là, une voiture peut devenir un avion.
Exactement, quand on regarde la forme d'une voiture, c'est exactement la forme d'une aide d'avion, elle est bombée sur le dessus, puis là, en dessous.
Exact.
Donc, il faut travailler l'aérodynamique, justement, pour éviter ce...
Oui, il y a des périls.
Et surtout pour 200 000 à l'heure.
Mm-hmm. 250.
250,
oui.
C'est ça, exactement. Oui. Lui, il y avait cette cible-là en tête, il voulait absolument qu'elle fasse 250 000 heures, c'était ça.
La cible était comme définie avant que j'arrive dans le portrait.
Wow.
Il est arrivé à Montréal dans son aérospatial Gazelle.
Un hélicoptère.
Oh my God, comme trois semaines plus tard, parce que j'avais préparé quelques rendus pour cette concept-là de Callaway.
Ouais.
Puis, quand il est arrivé, il a atterri à côté de à l'Habitat 67.
Avec son hélicoptère.
Oui.
Directement.
Directement.
Okay.
Puis on a fait le tour de la piste de circuit Gilles Villeneuve en Specster. Alors, c'était un peu mon entrevue. C'était ça, oui.
Il était venu voir la voiture que tu avais dessinée, la Specster.
Oui,
puis il était venu voir pour te saisir, comme on dit en anglais,
pour
voir si vous aviez des atomes crochus, si vous alliez pouvoir travailler ensemble, c'est ça?
Exactement. Puis, ça a fait Bon, depuis ce temps-là, on travaille ensemble.
Oui, ça fait plusieurs années parce que t'as pas fait juste une. Calloway, la Arrow Wagon aussi, la Corvette qui a une carrosserie qui ressemble un peu, j'ose pas dire une familiale, mais presque, une espèce de shooting brake.
Shooting brake, oui, c'est ça.
C'est un design qui est, pour moi, tellement génial. Moi, je trouve cette voiture-là absolument réussie.
On a fait trois générations de Corvettes ensemble. Tu sais, la première s'appelait le Sledgehammer.
Oui,
c'est
absolument.
Devenu le Aero Body, qui était disponible sur toutes les voitures Callaway. Puis, on a fait la prochaine série, c'était le C12 Callaway, avec une version Speedster.
Puis, ouais, je me souviens de ça.
Puis le C16, finalement, aussi qui est apparu à Pebble Beach. C'était le dévoilement.
C'était en 2007, je pense.
À Pebble Beach en 2007. Puis,
le concours d'élégance de Pebble Beach, ça, c'est comme le grand rendez-vous quand on parle de design automobile.
Oui.
Ça peut être spécial de lancer une voiture dans cet environnement-là parce que c'est vraiment, en matière de design, il y a Pebble Beach, il y a peut-être Villa d'Este, peut-être, en Italie.
Oui, je rêve à ça, mais c'est pas arrivé encore. Mais, un secret bien gardé, c'est que le prototype du C16 Speedster qui est paru à Pebble Beach, c'était construit 100% à Montréal.
Ah ouais, wow.
Pas loin d'ici.
OK, d'accord.
Oui, oui.
Wow. Parce qu'évidemment, c'est une voiture construite à un seul exemplaire. Donc, c'est des techniques de fabrication plus artisanales. Mais je savais pas qu'elle avait été bâtie ici à Montréal. Tu l'apprends aujourd'hui?
Oui, puis quand c'est arrivé à Pebble Beach, la peinture était encore frais. C'est-à-dire, on a travaillé jour et nuit pour rencontrer cette deadline-là.
Ben ça, c'est génial pour ce qui est de Callaway, mais par la suite, tu as fait aussi le design de la carrosserie du T-Rex de Campagna. Mmh. Comment est-ce que ce projet-là est arrivé? Parce que moi, je me souviens d'avoir conduit le premier prototype du T-Rex à Mont-Tremblant. Et tout ce qu'il y avait comme élément de carrosserie, c'était une espèce de cône, si on veut, assez basique là, avant, mais il y avait rien sur le reste du véhicule. Comment est-ce que tu en es arrivé à concevoir une carrosserie pour cette voiture-là qui... assez unique, finalement.
Bien, c'est un entrepreneur montréalais, Daniel Noiseux, qui nous a mis ensemble. Quand je dis nous, je parle de Daniel Campagna, qui était le concepteur du châssis. Puis Daniel Noiseux m'a contacté pour habiller le châssis et donner naissance au T-Rex. Côté conception, c'était les proportions du châssis, c'était tellement unique.
Exact.
Mais il y avait une beauté dans le châssis.
Mm-hmm.
Juste en le regardant, on pouvait visualiser quelque chose avec des belles proportions. Et je pense une erreur que beaucoup de gens qui font des trois roues, ils essaient de mettre une carrosserie d'automobile sur le trois roues, mais c'est trop lourd, ça ne fonctionne pas.
Comme le slingshot de Polaris.
Ouf.
ça paraît très joli, ça.
C'est une question de proportion, puis T-Rex, on a deux passagers en avant, le moteur central et le grand roue arrière. Alors, ça donne comme une progression naturelle en forme triangulaire. Je voulais faire quelque chose qui était plus accueillant que l'original. C'est de inviter le monde à conduire, puis donner le caractère. Le nom T-Rex, c'était naturel. C'est comme un animal vicieux, agressif, puis performant.
Et maintenant aussi, je pense que tu as souvent, bon, évidemment, travaillé ici. Tu travailles, ton bureau de design est ici à Montréal. Et maintenant, tu travailles beaucoup aussi avec les autobus Lyon, les autobus électriques, qui sont basés juste dans les basses Laurentides, en fait au nord de Saint-Jérôme. Exact. Comment est-ce que cette collaboration-là est arrivée? Et aussi, c'est très différent. C'est très différent des Callaway Corvette qui font 250 000 heures, 400 km/h, ou du T-Rex qui est une machine de performance. Là, on se retrouve avec des camions de livraison à motorisation électrique en plus. Point de vue design, c'est un tout autre concept. On est ailleurs.
Tu sais, je m'intéresse toujours dans toutes sortes de véhicules, un peu comme s'il y a des roues attachées, je suis intéressé. J'ai travaillé sur des ambulances de MERS, des motorhomes, road trek, puis c'est juste de trouver dans la niche quelque chose qui est excitant. Alors, pour moi, comme travailler pour les autobus puis les camions Lyon, c'était très naturel. Je les ai rencontrés quand c'était comme, je pense, 3 employés. Puis aujourd'hui, c'est plus que 500 en croissance. Puis alors, c'est une histoire de succès vraiment incroyable. Ça donnait une opportunité unique de créer un genre de ADN pour une entreprise. Je pense, je sais pas combien d'années que Lyon est démarré, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une gamme de produits qui ont une look unique à eux. Puis, on va voir où ça s'en va dans l'avenir, là. C'est sûr que il y a des choses excitantes qui s'en viennent. Mais, alors c'est vraiment, vraiment bien que c'est quelque chose qui se passe au Québec.
Là, on parlait, bon, évidemment, de tous ces designs qui sont très, très différents, des applications différentes aussi. Et je m'en viens à me demander, quelles sont tes inspirations, point de vue design? Parce que, évidemment, chaque projet est différent, mais où puis-tu ton inspiration? Est-ce que c'est en regardant les autres voitures, les autres designs, ou est-ce que tu vas des fois voir dans d'autres domaines ce qui se fait ailleurs? Comment est-ce que tu fonctionnes?
Oui, il faut pas travailler dans une bulle,
dans un vase clos, oui.
un vacuum, parce que il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais il faut ça c'est comme le point de départ. C'est il faut aller faire quelque chose qui est meilleur que ça. Puis c'est difficile à dire. C'est un peu comme demander à quelqu'un, écrire une chanson. C'est quoi? C'est quoi l'inspiration? C'est différent pour les cas différents. Mais je pense, à la fin de la journée, c'est de faire un design que de parler ce langage-là où le monde va le comprendre puis dire, je le comprends, I get it, c'est beau.
Au premier coup d'œil.
Au premier coup d'œil. Je pense que ça, c'est le feedback de si un design est réussi ou non. Et aussi, personnellement, si je commence un projet puis à la fin ou quand je livre la marchandise, si je suis pas tanné de ce design-là, c'est de le regarder. C'est un très bon signe. Normalement, c'est un très bon signe que ça, il va avoir une durée de vie.
Ouais.
Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent.
D'accord. Mais dis-moi, justement, puisqu'on se parle de design, est-ce qu'il y a des voitures ou des marques en particulier que tu penses qu'ils réussissent très, très bien au moment où on se parle à l'heure actuelle, en 2020, en ce qui a trait au design? Et le corollaire à cette question-là, c'est est-ce qu'il y en a qui ratent leur coup finalement? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, je pense, en étant designer, je suis devenu très fossile.
Très critique. Ouais.
Critique.
Ouais.
Peut-être trop. si je regarde quelque chose, je dis, on pouvait améliorer ça, puis ça. Ben.
Ouais.
Et puis, il y a certaines marques que je trouve, ils essayent trop fort.
Ouais.
C'est plus comment est-ce qu'on peut crier pour l'attention, d'avoir l'attention parce que c'est un beau design, un design très réussi.
Là, je pense que je lis dans tes pensées quand tu dis que des marques qui essayent trop fort. BMW peut-être, la nouvelle grille de la M3, M4 avec la grosse calandre.
Oui, mais c'est pas un monopole de une marque parce qu'il y a plusieurs marques où on regarde la calandre.
Ouais, exact.
Puis ils sont devenus comme monstres, des monstres sont démesurés. Et je pense qu'ils essaient de faire un statement, des formes assez bizarres là-dedans. Puis pour moi, ça m'impressionne plus ou moins là. Le design parfait, ça serait quelque chose qui est original, pas juste copier les autres, et qui a une durée de vie à cause que c'est un beau design, des belles proportions, puis.
Mais justement, quand on parle, et si je parle de design, est-ce qu'il y a une voiture, d'après toi, c'est quoi la plus belle voiture? Toute époque confondue. Qu'est-ce que quand tu la regardes, tu dis, waouh, ça, c'est la plus belle voiture au monde, selon moi.
Ben, je suis d'accord avec Enzo Ferrari qui a dit le Jaguar E-Type, par exemple.
Ouais.
C'est quelque chose que on fatigue jamais de le regarder. C'est tellement une belle forme. Les proportions sont dynamiques, excitantes, puis, c'est des icônes comme ça, ils sont encore valables pour une raison. C'est parce que Ils l'ont.
Ouais, ils ont eu les proportions, puis ils ont eu les...
C'est tout.
They got it right the first time.
Oui, ils ont, c'est pas... Mm. Tu sais, il y a beaucoup de... Comme il y a des voitures plus récentes. Moi, je, par exemple, souvent, tu sais, les Audi TT originaux, mm-hmm. très original. Comme un souffle d'air frais, là, comme...
Quand elle est arrivée sur le marché, ouais, le design de, ouais, de Freeman Thomas.
De Freeman Thomas, ben, oui. Ouais. Alors, il y a quelques exemples. Il y a beaucoup de Aston Martin qui, mm-hmm. qui ont eu le bon... Ils ont eu le bon mélange entre, tu sais, la tradition mm-hmm. et modernité. Puis, tu sais, de mélanger tout ça ensemble, ça donne une... ils ont eu des bons résultats. Aujourd'hui, je trouve, je pense qu'il y a beaucoup de pression mise sur les bureaux de design, mm-hmm. les OEM, les manufacturiers, pour sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. Et je pense, avec le volume, des fois, la qualité ou l'originalité du design souffre. C'est mon opinion,
c'est mon opinion personnelle.
Ouais.
Ben écoute, Paul, je te remercie beaucoup d'être passé nous voir. C'était super sympathique de reprendre contact avec toi, puis surtout de parler design. Et puis encore une fois, ben félicitations pour l'ensemble de ta carrière jusqu'à maintenant. Puis on va continuer de suivre tes réalisations dans l'avenir.
Merci beaucoup, Gabriel. C'était un vrai plaisir pour moi.
Tout le plaisir a été pour moi. Salut.
Salut.
Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.